carton, monsieur l'arbitre.
Intermarché vous offre 80% en avantage carte sur tous les produits de la marque Pampers. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 22 juin, des 30 euros d'achat et dans la limite de 40 euros, modalité sur intermarché.com.
Sur RMC, la nuit, RMC, c'est le meilleur de la journée. Rediff.
RMC, 9h, midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, content de vous retrouver pour 3 heures de discussion, de débat, bien évidemment, comme tous les jours en direct sur RMC, c'est la radio, RMC Story, c'est la télé, c'est sur le canal 23 de la TNT. Bonjour Olivier.
Bonjour Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Aujourd'hui dans les GG, notre trio Antoine Diers, consultant auprès des entreprises, le Dunkerquois, bonjour.
Salut Alain, et bonjour à tous.
Nous sommes avec Étienne Liebig, l'éducateur de Seine-Saint-Denis, bonjour Étienne.
Salut.
Et puis Joël Dagosséry, la coach de vie, nous accompagne.
Bonjour à tous.
Bonjour ma chère Joël, les grandes gueules, vous savez qu'on est dans le compte à rebours parce que après-demain, vendredi, on conclut notre tournée spéciale des 20 ans des GG. Nous étions à Clermont-Ferrand, nous sommes allés à Angers, nous sommes allés à Lyon, nous sommes allés à Pau, nous sommes allés à Toulon. Et vendredi, on a décidé de conclure en beauté les 20 ans des GG, la saison de tournée, sans compter les salons du livre, bien sûr, avec des personnalités emblématiques politiques du moment qui seront face aux grandes gueules, le garde des Sceaux Gérald Darmanin, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, les deux opposants en chef, si je puis dire. Ce sera donc vendredi.
Face à neuf grandes gueules qui seront là. Nous serons près d'un lieu de pouvoir, près de l'Assemblée nationale pour cet événement, avec donc ces trois personnalités politiques. Peut-être d'autres surprises, tout n'est pas encore finalisé. En tout cas, vendredi, vous pouvez vous inscrire pour participer à cette dernière de la tournée des 20 ans.
Et l'inscription, c'est sur notre site public@rmc.fr. C'est une petite adresse mail, public@rmc.fr. Et on se donne rendez-vous vendredi. Profitez de cette adresse mail. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui dans les GG? De l'épargne des Français qui atteint un nouveau record depuis 1979, d'un enfant de 7 ans que l'on trouve à l'école avec un couteau parce qu'il veut se venger d'un petit camarade. Mais on va commencer par la vague de chaleur et vous allez comprendre pourquoi on va vous parler de la canicule.
Il fait chaud, oh, 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 oh. Il fait chaud.
Vous savez, Étienne est limite de se lever et danser sur la table. Il est.
C'est
Antoine qui l'a retenu.
Exactement.
La qualité de la musique.
Il sentait les vibrations festives monter en lui, l'ami Étienne. Pourquoi est-ce qu'on va vous parler de la vague de chaleur? Parce que d'abord, ça va être notre sujet de préoccupation numéro un, en particulier pour les plus jeunes, les plus faibles et les plus âgés. Mais surtout parce que les présentateurs météo qui annoncent aujourd'hui le pic de chaleur et qui tentent de l'expliquer, deviennent la cible de toutes les critiques et même de la haine.
Alors tout d'abord, il faut préciser que Météo France redoute pour ce week-end, qui arrive, peut-être la première vague caniculaire de la saison, avec près des trois quarts de la France concernée. Dès ce vendredi, alors il fait de plus en plus chaud, hein, vous l'avez constaté cette semaine, mais dès ce vendredi, on pourrait passer un cap, il pourrait faire 38 degrés à Paris vendredi, on pourrait dépasser les 40 dans certains endroits ce week-end. Et vous savez, la canicule, c'est plusieurs jours de suite, il fait chaud et les nuits ne sont pas assez fraîches et donc on a ce sentiment de étouffant, de chaleur persistante. Et puis nous on vit avec le traumatisme de 2003 où on n'a pas su collectivement protéger les gens les plus fragiles cet été-là. Souvenez-vous, en 2003, où dans les urgences, les cadavres étaient dans les couloirs, on ne savait plus où mettre les corps, et on avait complètement, on n'avait pas su faire face à cette vague de chaleur. Depuis, c'est vrai que maintenant, on en fait beaucoup. Il y a des cartes de toutes les couleurs, le rouge écarlate quand il va faire très chaud, on prévient, il y a les messages de prévention, on essaie d'adapter les horaires, on pense surtout à ceux qui travaillent dehors, bien entendu c'est plus compliqué que pour ceux qui travaillent dans des bureaux climatisés. Et il y a un présentateur météo qu'on connaît bien ici, Guillaume Séchet, parce qu'il travaille à BFM TV, qui il y a quelques jours avait sur ses cartes dit effectivement une canicule est possible. Et le fait de l'avoir dit, eh bien, ça a été sur les réseaux sociaux un déferlement de haine, de menaces de mort. Il était accusé d'être finalement l'oiseau de mauvais augure, le prophète qui allait annoncer une catastrophe climatique. Alors, il faisait simplement son métier. On en est là. Même la météo aujourd'hui déclenche des hostilités.
Alors, qu'est-ce que vous en dites? Parce qu'en plus, Guillaume essayait d'être pédagogue, c'est-à-dire il expliquait pourquoi on atteignait ces températures extrêmes, c'était lié aussi au réchauffement climatique. Étienne, Antoine, Joël, qu'est-ce que vous en dites? Étienne?
Moi, je pense que c'est assez naturel, parce que je pense qu'on est tous dans un refus, alors que ce soit sur ce sujet-là ou sur d'autres, on est quand même tous à peu près dans un refus du pire. C'est-à-dire, on a quand même, au fond de nous-mêmes, je pense que même tous ceux qui le nient, on la trouille. On a la trouille pour nos enfants, on a la trouille de... Un petit peu comme pour la guerre, on a la trouille de cette société qui nous met en danger. Et je pense que le refus, c'est un peu un refus comme au Moyen-Âge, on accusait celui qui annonçait de tous les maux. En réalité, ce refus nous entraîne vers un refus de la science. Mais je veux dire, c'est presque assez banal comme truc. C'est-à-dire que on refuse le pire parce que ça nous fout la trouille. Et donc, mais en réalité, on le sait bien. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que très souvent, on voit des gens, notamment à la campagne, on ne peut pas dire que c'est les gens qui sont le plus sensibles aux questions de bobos parisiens. À la campagne, les gens qui disent, bah oui, on ne peut plus cultiver tel produit, oui. On fait du vin, oui, en Bretagne. Et donc, en réalité, il y a une réalité qui est, oui, mais... indéniable, mais on est dans le refus. Et ce pauvre garçon qui l'annonce, Séché, ouais, il devient le symbole. C'est très moyenâgeux. Vois, et
Guillaume, il écrit, je ne sais pas si vous avez vu son poste, hein, face à l'avalanche d'insultes, j'ai décidé de supprimer mon poste qui indiquait la possibilité de canicule. Voilà où nous en sommes arrivés, écrit Guillaume Séché, sur un compte passionné de météo. On n'a jamais atteint un tel niveau de bêtise. Ce monde devient fou, c'est très inquiétant. Antoine.
Moi, je pense qu'on est dans cette situation parce que précisément, on a cherché à faire peur aux gens pendant longtemps. Je ne nie pas le réchauffement climatique, c'est une vérité scientifique. Mais depuis... Alors moi, j'ai grandi dans les années 90, c'était le trou de la couche d'ozone à l'époque. On allait tous mourir cramés par les ultraviolets la semaine prochaine, mardi, parce qu'il y avait un trou dans la couche d'ozone. Est-ce que vous entendez encore parler du trou de la couche d'ozone?
Chaque année, les scientifiques font un point. Voilà. Oui.
C'était moi, le truc qui nous faisait peur quand moi, j'avais 8 ans, dans les années 90. On a fait peur aux gens en pensant que parce qu'on leur ferait peur, ça leur ferait prendre conscience du sujet. Les rapports du GIEC, les trucs, voilà, chaque semaine on doit mourir la semaine prochaine. Et donc les gens, ça n'a pas marché cette pédagogie de la peur. Ils sont allés trop loin. Les gens ne sont pas des gogos. Pour leur faire prendre conscience des choses, il faut leur expliquer posément, sans catastrophisme. Et donc, on est tombé dans l'excès inverse.
C'est vrai, on veut dans
à
ta
force.
Part.
C'est ce que je fais tout le temps. Je sais qu'à chaque fois, ça te fait
la modération même, Antoine Dier.
C'est pas ce que tu fais sur d'autres domaines. L'extrême droite, c'est faire peur aux gens.
Moi, ce que tous les auditeurs que je croise me disent, c'est Antoine, on aime beaucoup parce que vous parlez doucement, modérément, il n'y a pas d'exagération. On a le droit de parler des sujets graves, comme le réchauffement climatique, sans faire peur, en en parlant calmement. Et là, vraiment, on est tombé dans l'excès inverse. À force de faire peur aux gens, les gens se braquent. Bah non, réussissons à parler calmement de l'adaptation à la canicule.
Donc tu es en train de dire que c'est de la faute de Guillaume Séché et pas de ceux qui l'insultent.
Non, pas Guillaume. J'ai pas dit.
En disant que les ZFE...
Je te parle de tout, le GIEC, bah oui, c'est vrai, les écolos... Je te parle pas des météorologues. Je te
dis que les météorologues vont relayer aussi ces messages d'alerte.
En fait, tu vois le rapport du GIEC. Chaque année, on nous dit, les scientifiques nous ont prédit qu'on mourrait mardi prochain.
Et
t'arrives mardi prochain et t'es pas mort. Et tu dis, est-ce qu'ils se foutent pas un peu de notre gueule?
C'est faux, tu vois, ce que tu fais là, c'est-à-dire que tu fais exactement la même chose, mais à l'envers, c'est-à-dire, tu dis, les scientifiques mentent, ils exagèrent et ils mentent pour nous faire peur. Le rapport du GIEC ne dit pas, c'est des politiques, c'est des militants, le GIEC ça mélange, il y a pas que des scientifiques.
Voilà. Et donc moi j'ai prêt à écouter les scientifiques.
Tu sais très bien que la peur, ça a toujours été une manière de gouverner.
L'extrême droite connaît bien.
Mais pas que l'extrême droite. L'extrême droite,
on parle de climat.
Vous faites exactement la même chose sur d'autres domaines.
Tout le monde.
Moi, la sécurité,
la droite ou la gauche, gouverner par la peur, c'est vieux comme le monde.
Mais oui, bien sûr.
Et effectivement, faire peur, ça permet aussi parfois de récupérer des voix.
Et au passage, ça permet de dire, regardez ces dingos qui nient le réchauffement climatique et donc tu clives. Arrêtons de gouverner comme ça.
Mais il y a des gens qui nient
le réchauffement. Le rapport du GIEC est devenu un totem, une bible.
Ce qu'a vécu le présentateur météo, c'est exactement ce qu'on peut voir avec le Covid. Enfin, tu vois plein de comptes qui s'excitent et qui sont très violents concernant ceux qui avaient en tout cas été favorables au vaccin, par exemple, et qui sont complètement... Tu te dis, mais à quel point... ils sont haineux. Enfin, voilà, ça en devient déraisonnable.
Ah oui, mais on devait tous mourir aussi avec le Covid. C'est le même schéma.
Oui, mais je suis d'accord.
C'est une réaction à la pensée unique.
Je suis d'accord, c'est ça. C'est une réaction à la pensée unique, tout à fait. Et donc, tu as une réaction très forte à ça. Mais aussi, il y a une question aussi d'algorithme et d'absence de modération sur les réseaux sociaux qui font que tous ces genres de réactions émergent et sont visibles de tout le monde. C'est les mêmes qui vont te dire aussi je contracte pas. En fait, on a tout un mélange de personnes qui sont, oui, contre la pensée unique aussi, mais aussi qui sont dans la réaction est favorisée par un algorithme qui est complètement débridé, notamment sur X, parce que j'ai vu son post, c'était sur X, et on sait que sur X, avec depuis Elon Musk, tout est ouvert, et donc bien sûr, t'as tout le monde qui s'excite, il y a des menaces de mort, il n'y a plus de modération, donc moi je pense que c'est le résultat de ça, sinon... Ce qu'il a fait, c'est juste de la météo. Enfin, je veux dire, il a juste annoncé la météo. Il a annoncé qu'on devait avoir une canicule pour qu'on puisse se protéger. Moi, la canicule de 2003, je l'ai vécue et elle m'a vraiment traumatisée. Déjà, j'en ai souffert réellement. J'étais dans un appartement, un vieil appartement. Les 43 degrés en pleine journée, la nuit, tu dors pas, etc. Et on a appris, grâce à la canicule de 2003, beaucoup de gestes. Moi, par exemple, j'ai appris qu'il fallait fermer les volets. J'étais plus jeune à l'époque, mais j'ai appris qu'il fallait complètement fermer les volets la journée pour garder le frais et tout. Donc, ces épisodes-là nous entraînent aussi à pouvoir se protéger et à prendre certains gestes. Donc, je ne vois pas ce qu'il a fait de mal. Je pense que les gens devraient un peu se calmer.
Il a lié ça au réchauffement. À chaque fois, il rapproche avec des données scientifiques du réchauffement.
Mais au-delà de ça, c'est que ces vagues de chaleur qui existent et que personne nie, lié au réchauffement climatique, c'est bien d'informer les gens que ça va arriver, etc. Mais on n'est pas obligé d'en faire des tonnes. Je ne parle pas de Guillaume Séchet. Je trouve que dans le ton... Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des consignes. On demande aux présentateurs météo de ne pas se réjouir quand il fait beau et chaud. Parce que vous comprenez, c'est le réchauffement climatique et que c'est grave.
Et tu compares la couleur débile, sur les cartes.
On peut très bien...
La couleur trouver... sur les cartes météo, c'est devenu très très rouge au-delà de 30.
On peut très bien trouver chouette.
Ans,
Il fait beau, je suis content parce que je vais aller dehors, mes enfants vont jouer dehors et je vais pouvoir manger en terrasse et ne pas nier le fait qu'il y a un réchauffement climatique. Mais je trouve que cette façon un peu pensée unique de dire aujourd'hui, de toute manière, c'est mal de penser... Il y a le mal et il y a toujours le bien.
Et
le Covid, c'était un peu ça. Pourquoi il y a eu autant de réactions virulentes et excessives? C'est parce qu'à un moment donné, il y avait quand même un rouleau compresseur.
Il y avait une parole scientifique.
Je suis désolé. D'enfermer les jeunes pour protéger les vieux, ça a été une décision politique. C'est pas une décision scientifique.
Mais il y avait une parole
scientifique. C'est une décision politique.
Il y avait une parole scientifique.
Bien sûr, je parle de la parole politique.
Tu vois, ce qui va pas, c'est que. D'un côté, il y a une espèce de panique générale vis-à-vis du réchauffement et ce serait bien. Mais d'un autre côté, finalement, les politiques, ils font pas grand-chose. Parce que, par exemple, on nous dit qu'il faut arrêter de bétonner partout. Mais non, justement, il faut mettre des arbres.
Dans les trains.
Il faut arrêter de bétonner, etc. Et or, en réalité, on voit que les politiques...
Mais la clim, pareil.
La clim, c'est mal.
Mais comment dans les EHPAD on fait pour que les vieux ne meurent pas?
C'est très intéressant ce que tu dis.
Bah oui.
L'idée, c'est de pas être systématique en rien. C'est-à-dire que je pense que les clims dans les EHPAD sont indispensables et qu'ailleurs, on peut plutôt mettre autre chose que de la clim. Il vaut mieux. Voilà, c'est tout. C'est juste, on a le droit de pas être à 100% dans un sens, mais de chercher une espèce de moyenne. C'est pas interdit encore.
Salut Pierre, paysagiste dans l'Hérault, un fidèle des JG.
Pierre, voilà, bonjour Pierre. Salut Joël, la meilleure. Toujours.
Pour vous, Pierre. Non, mais dites donc. Ça
fait longtemps, Pierre.
Ils sont jaloux.
Est-ce que les présentateurs météo vous font hurler, vous mettent en colère ou pas?
Moi, comme j'ai dit au standard, en fait, c'est mes confrères. Je suis paysagiste, donc la météo, je la regarde matin, midi et soir. Depuis 10 ans, même sans problème. Donc déjà, c'est mes confrères, je les remercie. Déjà, je les embrasse pour tous, les régionaux, les départementaux. On a aussi des bénévoles, on n'en parle pas beaucoup, mais on a aussi beaucoup de bénévoles qui travaillent sur des météos, sur les stations météo. Donc déjà, je les remercie pour leur super travail. Je veux dire, ils nous informent sur la grêle, sur des orages, tout ça. Je veux dire, ça nous a bien, enfin moi, ça me sert vraiment, vraiment beaucoup. Et ce que je vois sur les réseaux, notamment, c'est ce torrent de haine et d'insultes à répétition, je veux dire, dès qu'il lance un peu de chaud, un peu d'orage, un peu de machin.
C'est inadmissible.
Et puis après, moi, je m'amuse à regarder les profils quand même un peu.
Ouais.
Je regarde un peu les profils, et ben c'est Françoise, c'est Jean-Claude, c'est René,
c'est des complotistes.
70 ans. les gâteux, quoi. C'est les gâteux de la République, là, qui embêtent tout le monde. Et pourquoi pas, ils embêteraient pas les météorologues. Mais les météorologues, il faut pas qu'ils se... Je veux dire qu'ils paniquent sur ça. Hein. Je veux dire, c'est tout le monde. Hein. On en prend tous plein la gueule. Et voilà. Mais après, les menaces de mort, c'est vraiment... Mais c'est un truc incroyable. Je veux dire, pour de la météo, surtout.
Ouais, on parle pas de... Pour tout, d'ailleurs, oui, on n'a pas de
quelqu'un sur ce sujet.
Ils font peur.
Pierre, je sais pas si vous avez lu, mais Guillaume, ce qu'il écrit, dit, est-ce qu'on peut encore être passionné de météo sans être soupçonné de faire de la politique sur le thème du réchauffement climatique?
Non, parce que les jeunes, voilà. Moi, on a du respect, un énorme respect pour ces gens-là. C'est juste une génération, c'est toujours pareil, qui crache sur tout le monde. Bon, il ne faut pas qu'ils se
Je ne suis pas sûr que ce soit une génération.
C'est dire, je suis jeune, moi.
Non, Pierre, honnêtement, ce n'est pas une question de génération. Vous regardez Étienne.
C'est un vieux con.
Il est vieux, mais il est sympa quand même.
Bah oui, mais voilà. Toi, t'es jeune et t'es déjà vieux con.
Vraiment, je pense que c'est plutôt une question de gens qui ont le sentiment qu'on leur impose une pensée. Et vraiment, si on avait fait preuve de plus de pédagogie, en ne disant pas aux gens ce qu'ils doivent penser, mais en disant, voilà les chiffres. Chacun en déduira ce qu'il pense. Mais aujourd'hui, on impose une seule pensée, c'est le réchauffement climatique. Bah, et les gens, par réaction épidermique, disent non.
Merci Pierre, à bientôt dans les GG Pierre.
Allez, bonne journée.
Et attendez, parce que vous du côté de l'Hérault, ça va castagner aujourd'hui. Hein.
Ah ben là il fait bon, là, c'est grand soleil, mais après moi comme je dis, hein, je préfère souvent l'été que l'hiver quand même.
Ouais d'accord, et vous allez avoir combien, ça va taper combien aujourd'hui là, chez
aujourd'hui,
vous, 34
33, ouais, 33, ouais, 34.
Oui ça va, c'est pas non plus,
oui, c'est normal. Va,
dire, heures, même le pas. Terme taper, pardon mais... Alain, le merde, on a l'impression
34 dans l'Hérault.
C'est une expression comme ça.
Non mais on est dans une société tellement anxiogène, on est obligé d'en rajouter.
Non mais on dit le soleil tape, c'est comme ça,
mais dans l'Hérault, pardon, quand il fait 33 dans l'Hérault, les gens ils disent pas sur place, ils tapent.
C'est une expression, on dit que ça cogne ou ça tape. C'est vrai,
t'as oublié d'où tu venais.
Et voilà, ils ont même réussi à mettre le
pied sur notre salaud, ce Marshall.
Chez nous, on dit ça castagne, ça cogne, ça tape.
Ouais.
À la bonne excuse. On dit jamais ça.
Moi, chez nous, on dit jamais ça. C'est des trucs de régionaux, ça. Il y en a marre des mecs qui veulent leur particularisme.
Merci Pierre, à bientôt. Est-ce qu'on en fait trop ou pas à propos des vagues de chaleur et de la canicule? Bah vous dites quand même oui, clairement, oui. À plus de 81%. Dans un instant, on va regarder ce qui se passe toujours entre Israël et l'Iran. Vous avez entendu hier ce qu'a dit le chancelier allemand. Il a dit en fait Israël est en train de faire le sale boulot pour nous tous. Ah oui. C'est ce qu'il a dit. Alors est-ce qu'il faut soutenir Israël qui fait le sale boulot? C'est au 32-16 que ça se passe. Il est 9h20, vous êtes avec les grandes gueules en direct sur RMC, la radio. RMC Story, la télé, c'est le canal 23 de la TNT.
RMC, 9h, midi, les grandes gueules. Sur RMC, tous les matins dès 6h30, commencez la journée dans la bonne humeur avec Apolline Matin.
De l'écho, de l'actu, des débats, du rire, des réveils, un journal toutes les demi-heures, les meilleurs invités et vous au 32-16.
RMC, Apolline Matin, du lundi au vendredi, 6h30-9h. RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC, pour réagir en direct, 32-16, touche 1.
Touche 1.
Pour vos pauses musicales, téléchargez l'appli RMC.
RMC vous offre aussi une radio digitale 100% musicale.
RMC Gold.
RMC, bien plus qu'une radio.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules, c'est avec vous, c'est tous les jours, c'est au 32-16 que ça se passe. C'est avec nous que vous réagissez, bien évidemment, avec aujourd'hui Joël Dagosséry, avec Étienne Liebig, avec Antoine Dierce. On va regarder la guerre, on en est au 6e jour de guerre aujourd'hui entre Israël et l'Iran. Sixième jour de guerre entre Israël et l'Iran, et cette déclaration quand même hier lors du G7 du chancelier allemand, qui dit bah, Israël fait le sale boulot pour nous tous en essayant de de mettre à mal l'arsenal nucléaire iranien. Alors, est-ce qu'effectivement, du coup, il faut tous être derrière ce combat que mène Israël ? C'est au 32-16 que ça se passe avec vous.
Ouais, c'est une journée qui va être importante parce que hier, Donald Trump a appelé à une capitulation sans condition de Téhéran. Et c'est une question non tranchée dans l'entourage du président américain. Faut-il que les États-Unis participent directement aux raids aériens sur les installations nucléaires, notamment les installations souterraines? Vous savez que les Américains sont les seuls à avoir cette fameuse bombe GBU-57, une vige de 13 tonnes qui permet de détruire des installations qui sont profondément enfouies. Alors, est-ce que les Américains vont participer directement à cette guerre? Pour l'instant, Donald Trump, visiblement, n'a pas tranché, même si son armée serait en alerte. C'est ce que dit d'ailleurs le New York Times aujourd'hui. Il a en tout cas menacé directement le guide suprême Khamenei hier en disant qu'on pouvait le tuer. On ne va pas le faire pour l'instant, mais qu'on pouvait le tuer. Donc, ça veut
dire qu'on sait où il est.
On sait où il est. Et puis, du côté de la France, c'est une position plus nuancée. À la fois, on dit que l'Iran effectivement est un ennemi, est un danger pour la planète, c'est d'ailleurs le communiqué du G7, mais en même temps le chef de l'État rappelle que tous ceux qui croient qu'en frappant avec des bombes depuis l'extérieur on sauve un pays malgré lui-même et contre lui-même se sont toujours trompés, et le président prend en exemple la Libye ou l'Irak. On pourra quand même dire que personne aujourd'hui regrette Saddam Hussein et Kadhafi. Alors, est-ce que la France doit aller plus loin et soutenir comme les Allemands vraiment les Israéliens, ou au contraire garder cette position plus mesurée?
Non, moi, écoute, je suis plutôt sur la position du président de la République. Je ne m'explique pas cette facilité d'aller en guerre. J'ai l'impression, alors peut-être que j'étais trop jeune, mais j'ai quand même l'impression qu'avant, pour entrer en guerre contre un autre pays, il y avait tout un débat, il y avait des débats à l'Assemblée, il y avait, quand tu entendais la voix de l'ONU, enfin, j'ai quand même l'impression que c'était moins d'un claquement de doigts. Tu vois, là, j'ai l'impression qu'entre la Russie, Israël, les États-Unis qui disent « Ah bah oui, on sait où il est, et puis si ça continue, on va aller le chercher. » Enfin, j'ai quand même l'impression que c'est devenu assez simple, maintenant, de décider d'aller taper sur un autre pays. Alors, je me demande où sont toutes ces tonnes d'organisations internationales que nous avions mises en place, justement, soit pour pacifier le monde, ou soit pour prévenir ce genre de comportement. J'ai l'impression qu'il n'y a plus personne, que j'ai des dirigeants qui sont dans leur pays et qui décident qu'ils peuvent aller taper là et là. Donc moi, je suis sur la position du président de la République parce que je regarde ce qui a été fait et je ne vois aucun de ces pays qui a été déstabilisé, qui aujourd'hui est en bonne santé. Ah oui. J'en ai aucun. Tu m'en cites un, Antoine, moi, tu me le trouves.
Je voulais surtout revenir sur le fait, tu dis, absence de réaction des organismes internationaux. Il y a quand même un truc, c'est que l'Iran a dit... nous allons rayer Israël de la carte.
Ouais. Mais on sait,
toutes les organisations internationales savent que l'Iran se dote de l'arme nucléaire, ouais. Et d'après les renseignements, était à quelques semaines ou quelques mois d'avoir une arme nucléaire opérationnelle.
Et on nous explique
le rôle des organisations internationales, c'était précisément de stopper l'Iran, oui. Qui avait annoncé vouloir détruire Israël.
Mais on nous explique aussi que l'Iran, en réalité, n'a pas les moyens de sa politique. Ça. On n'arrête pas de nous expliquer que l'Iran n'a pas les moyens de sa politique.
L'Iran fait beaucoup de communication. Vous allez me laisser faire en disant qu'il n'a pas les moyens d'aller tuer son voisin.
Tu me parles d'experts qui me disent que l'Iran est à deux doigts d'avoir la bombe atomique. Moi, je dis d'accord, ok. Mais j'ai aussi d'autres experts qui m'expliquent que l'Iran n'a pas les moyens de sa politique. Donc, à un moment, il faut savoir où se placer. Et moi, ce que je regarde, c'est pas qu'il ne faut pas arrêter l'Iran. Ce que je regarde, c'est que.
Pourquoi l'Iran enterre ses installations? S'ils sont limpides. Jean-Baptiste, ambassadeur iranien, non, on fait que du nucléaire civil. Bah alors pourquoi vous cachez? Si vous faites que du nucléaire civil,
personne ne les croit.
Pourquoi vous enterrez à 60 mètres de profondeur? Je trouve que.
Mais personne.
C'est un aveu de culpabilité.
Mais personne ne les croit. Moi, je dis juste que je regarde en arrière. Je regarde que l'Occident, ou là, c'est Israël, mais en tout cas, l'Occident, à travers les États-Unis aussi, ont déstabilisé pas mal de pays. Et je regarde la suite et je ne vois pas une suite positive à ces déstabilisations. Oui. L'Iran lui-même a été déstabilisé et aujourd'hui on en voit les conséquences. Donc vous m'excuserez de m'inquiéter de la déstabilisation d'un pays quand je vois ce qui vient après.
C'est la question de savoir si le régime tombe, qu'est-ce qui se passe. Mais ça, personne ne sait.
Étienne.
Alors, moi je suis de la génération, mais vous aussi, de la génération de l'affaire de l'Irak. Et. il y avait, je me rappelle quand il y a eu l'affaire de l'Irak,
la France n'a pas participé.
Il y avait des, oui, tout à fait. Il y avait des journaux très sérieux, des journaux très sérieux, qui à l'époque avaient, en page centrale, marqué, voilà, l'Irak, troisième armée du monde, première armée du monde, armée américaine, deuxième russe, troisième l'Irak. En réalité, l'Irak, on nous a construit tout un cinéma, tout le monde se souvient des images.
Enfin, et finalement, c'était pas du cinéma.
Mais alors justement,
c'était une menace pour le monde.
À la fin, on s'est aperçu qu'il avait des chars gonflables. Hein, il avait des chars gonflables qui étaient des faux chars. Il n'avait pas d'armée. Il n'avait pas d'armée. Et on était tous persuadés, quand il n'avait pas d'armée, aucune armée. Et quand écoutait la télé et la radio, c'était la troisième armée du monde. Donc en réalité, moi, je suis extrêmement prudent sur ce qu'on raconte sur un pays quand on veut. Est-ce que je peux aller jusqu'au bout? Quand on veut justifier pourquoi il faut l'agresser. D'ailleurs, Tulsi Gabbard, qui est la directrice du renseignement américain, qui vient de se faire rabrouer par Trump hier soir, disait elle-même, et c'est quand même la chef du renseignement américain, que l'Iran était très loin d'avoir une arme atomique. Ce ne veut pas dire que l'Iran n'a pas derrière la tête l'idée de s'armer, comme des tas d'autres pays. Je rappelle que, en gros, dans le monde aujourd'hui, si le Pakistan et l'Inde se foutent pas sur la gueule à s'entretuer immédiatement, c'est parce qu'ils ont tous les deux l'arme atomique.
Que Israël a l'arme atomique aussi.
Le Pakistan et l'Inde. L'arme atomique, c'est le moyen qui a été trouvé pour empêcher les pays de se battre. Si on écoute la stratégie.
Est-Ouest.
Voilà, ça a été inventé pour ça. Donc en réalité, à chaque fois qu'on nous dit l'arme atomique, c'est pas pour s'en servir, c'est pour pas s'en servir. Donc a priori, il y a des pays qui ont le droit d'avoir l'arme atomique. Et d'autres qui n'ont pas le droit d'avoir l'arme atomique, mais ça, c'est encore une idée un peu subjective. Il n'y a pas d'objectivité sur qui doit, parce qu'on pourrait dire les Pakistanais.
Bah on préfère que ce soit Pakistan, entre les mains de pays démocrates et libres.
Le Pakistan est vraiment un pays démocrate et libre. L'Inde est vraiment un pays démocrate et libre.
L'Inde, oui.
Ouais, enfin bon, chacun verra plus, ça.
Non, mais moi,
est-ce que la Russie est un pays démocrate et libre? Est-ce que la Russie ne peut
Non.
Bon, on ne sait pas.
D'ailleurs, ça nous a bien emmerdé parce que pendant 70 ans, c'était la guerre froide.
On est là, on a décidé une bonne fois pour toutes qui était gentil, qui n'était pas gentil. Mais ça, finalement, c'est pas des règles. Non, c'est pas ça que je dis.
C'est relativiste.
Laisse-moi terminer.
Ça ne te ressemble pas.
Je dis juste qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Que de pas sombrer automatiquement dans tout ce qui est dit et d'y croire parce que c'est
un
les Américains
les femmes
parce que c'est
régime.
Les Américains par ailleurs personne ne défend ce régime qui a été mis en place par les Américains le communisme à l'époque parce qu'ils avaient peur du communisme et ils ont mis des religieux au pouvoir et on a vu ce que ça a donné. Personne ne défend ce régime qui oppresse les femmes, qui est insupportable. Personne ne le défend.
Pardon, mais maintenant, quand on a fini tu oublies quand même quelque chose, c'est que l'Iran finance le Hamas. Le Hamas a organisé le 7 octobre.
Mais oui.
Et donc Israël est toujours dans une logique de se défendre et de combattre ses ennemis.
On parle pas d'Israël.
Israël ne combat pas l'Iran, parce que quand on dit l'Iran, c'est pas l'Iran, c'est la République islamique iranienne. C'est pas la population iranienne qui est en cause. Ce sont les gardiens de la révolution. Le problème en Iran, c'est pas les Iraniens, c'est les gardiens de la révolution. Peut-on les faire tomber? Et ça, c'est vrai, il y a une vraie question.
Non.
Avec des bombes, etc. Néanmoins, ne rien faire, c'est une position un peu lâche aussi. On peut pas à la fois dire l'Iran est un grand danger pour le monde et puis dire bon voilà. Une fois qu'on a dit ça, on ne fait rien parce que les instances internationales n'ont pas de levier.
Antoine. C'est Daladier 1930, laisser grandir un ennemi.
Les pacifiques perdent toujours face aux fanatiques. Moi, c'est l'histoire de l'humanité.
Ce débat, il est piégé. Donc, avant de l'entamer, j'aimerais dire que je ne suis pas juif, je n'ai aucun lien avec Israël, je ne suis pas musulman, j'ai aucun lien avec les pays.
Je ne suis pas musulman.
Je suis français, un petit français né ici, qui regarde le monde et qui s'aperçoit que un État, Israël, menacé par tous ses voisins, avec l'Iran qui a dit qu'il voulait rayer cet État de la carte, cet État décide de se défendre. Et ce petit État se défend contre la Palestine, contre le Liban, contre l'Iran en ce moment. Et ce petit État arrive même à faire enclencher Trump derrière lui. Positionner.
Ouais.
Non, alors d'habitude, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt les États-Unis qui autorisent Israël à y aller. On sera là en soutien. Là, Israël a déclenché tout seul. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit, je ne suis pas juif, je pense qu'Israël défend sa survie.
son droit le plus légitime à vivre en paix.
C'est parce que le monde a changé. Et parce que les soutiens de l'Iran ont disparu. Et qu'ils sont plus. Il y a la Syrie qui a disparu, la Russie ne peut
grâce
plus les soutenir.
On est d'accord.
Donc en fait, on est dans un monde complètement différent. Mais ceux qui ont soutenu Bachar el-Assad, si tu veux,
ils
ne peuvent pas nous donner des leçons de moralité.
Je ne suis pas favorable aux interventions militaires pour imposer la démocratie, etc. Ça ne marche jamais. Mais on n'est pas dans ce cas-là, ici. On n'est pas dans
l'excuse d'Israël, c'est de dire on va faire tomber ce régime.
Un régime qui les menace directement. Oui. Israël.
Non, il parle aussi de faire chuter le régime.
Ils disent lutte contre les gardiens de la révolution, c'est eux nos ennemis. Et après, aux Iraniens de se débrouiller.
Exactement. Et Israël est très vigilant à faire le moins de pertes civiles. Et je trouve d'ailleurs qu'il s'en sort assez bien.
Moins de pertes civiles.
Gaza, c'est un autre jour.
C'est indifférent. Bonjour. Ingénieur informatique à Paris. Alors, est-ce qu'il faut, comme le dit le chancelier allemand, Israël fait le sale boulot, il faut les soutenir?
Faire le sale boulot, c'est un terme que je n'aurais pas utilisé à la place du chancelier allemand, déjà d'une. Et de deux, moi je suis contre le fait d'intervenir dans un pays souverain pour faire changer le régime ou quoi que ce soit. On a très bien vu à travers l'histoire que ça n'a jamais fonctionné.
Si, la magnazie.
On est allé jusqu'à Berlin.
Et le Japon.
Allez-y.
On parle d'une époque très très lointaine et sur des horreurs qui ont été commises via ces pays-là qui ont envahi d'autres pays, qui étaient des pays belligérants.
Bah, l'Iran a commis des erreurs depuis 1979.
Elle envahit pas des pays contre vous, contre nous.
Elle finance des mouvements terroristes qui se retournent contre nous.
Laissez parler Ahmed. Allez-y.
C'est pas l'Allemagne nazie.
Les mouvements terroristes vont émerger si justement on tente de changer le régime. On l'a vu avec la Syrie et l'Irak. On a généré 20 ans de terrorisme international. Changer le régime...
En Iran, c'était déjà...
Je vois aucune légitimité de la part de notre part d'aller faire ce genre de choses.
Non, mais Ahmed, dans un premier temps... Je suis d'accord avec vous, Ahmed. Dans un premier temps...
L'Iran voulait rayer Israël de la carte, alors que c'est totalement faux.
Mais si,
c'était une erreur de traduction. Non, c'est une erreur de traduction.
Vous plaisantez. On peut tout réécrire, mais là...
Non, mais... Eh bien, trouvez-moi la source, parce que je vous dis clairement que c'était une erreur de traduction.
Non, bon, d'accord. Il y a
des juifs. Qui est de l'intox, ça, c'est sûr qu'il y a de l'intox.
Non, il a dit qu'il voulait changer le régime israélien. D'accord. Il voulait rayer Israël de la carte, justement, sa déclaration, lui. Et n'est pas légitime également.
D'accord. Et quand l'Iran finance le Hamas qui organise le 7 octobre, alors qu'est-ce que vous en dites?
Ah ben là, je suis totalement contre.
Donc c'est bien dans une volonté de faire du mal aux Juifs, pas que le Hamas.
Je vous dire également que le Hamas est subventionné par le Qatar via l'accord fait avec Netanyahou. C'est lui qui a donné le logo.
Oui, ça c'est vrai, c'est reconnu.
Donc vous dites simplement,
a été monté en puissance.
C'est pas notre guerre,
Ahmed. Tout le monde le sait.
D'accord. Donc Ahmed, ce que vous dites, c'est
vous voulez pas financer le Hamas.
La question iranienne,
la Palestine.
La question iranienne et du régime iranien regarde les Iraniens et ne regarde pas le reste du monde.
Absolument. Et si on doit intervenir, c'est via des négociations qui étaient en cours. C'est les États-Unis via Trump qui ont dénoncé cet accord sur le nucléaire. Et là, on se met à montrer
Les Iraniens mentent. Le problème, c'est que les Iraniens mentent. C'est-à-dire que l'accord d'Obama, il n'était pas bon. On le sait aujourd'hui. Il n'était pas bon, cet accord d'Obama. Alors peut-être Trump a eu tort de l'annuler complètement. Il fallait peut-être le renégocier. Mais cet accord, même les Européens savaient que cet accord n'était pas bon et qu'on se faisait enfumer par les Iraniens, enfin par la République islamique.
Nucléaire civil, très bien. On négocie avec eux. Vous savez quoi? Vous arrêtez de faire de l'enrichissement. On vous vend. De l'uranium déjà enrichi, et vous supprimez toutes vos centrifugeuses.
Peut-on faire confiance
En tout cas, il y avait une discussion dimanche, normalement. Avec Trump.
Ahmed dit simplement une chose, c'est quand même une agression d'un pays sur un autre,
Évidemment.
Et que ça regarde les Iraniens s'ils veulent changer de régime. David, qui est conducteur routier, nous appelle de Lyon. Bonjour David.
Oui, bonjour les grandes gueules.
Bonjour, et vous David, est-ce qu'on doit soutenir Israël ou vous êtes plutôt, comme le dit Ahmed, laissons les Iraniens faire, quoi, en fait?
Non, mais moi je suis complètement à l'opposé d'Ahmed, de Joël ainsi que d'Étienne. Ils sont gentils, eux. Ils sont pas israéliens, ils sont pas iraniens. Mais moi je préfère écouter Maher Monshipour, vous voyez, que j'ai entendu plusieurs fois, qui lui a petit des deux mains. Parce que quand on a des gens qui jettent les homosexuels des étages, qui font des pendaisons pour la moindre petite chose qui est contraire à ce que disent les mots-là, moi je suis désolé, moi. Quand on a un petit pays comme Israël, vous savez, moi je suis j'ai une admiration pour ce pays. Pourtant, moi je suis un Français de la France profonde. J'habite en pleine campagne. J'ai rien à voir avec l'État d'Israël. Mais par contre, qu'est-ce que je suis admiratif de ce pays. 10 millions d'habitants. Ils sont entourés que de gens hostiles à eux. Et ces gens ont le courage de rester chez eux là-bas en Israël, de se battre, alors que ils ont beau dire tout ce qu'ils veulent, hein, Joël, Étienne, je le dis encore une fois, mais si Israël a réussi à convaincre Donald Trump, c'est parce qu'hier j'ai écouté sur un autre plateau que BFM ou RMC, il y avait des experts qui ont dit que l'Iran avait enrichi quatre fois l'uranium, quatre fois plus l'uranium qui était prévu dans l'accord. Donc c'est pourquoi, si ce n'est pas pour faire une bombe nucléaire et frapper Israël.
Pour pouvoir mieux éclairer la nuit.
Non mais ils ont raison Israël, il faut leur taper dessus, et ils l'ont bien dit, hein, j'ai écouté moi très attentivement, contrairement à ce que dit Étienne, ils ont très bien dit qu'ils voulaient pas changer le régime, mais que si, grâce aux frappes et grâce à ce qu'ils sont en train de faire actuellement, le peuple iranien voulait
ça risque d'être l'inverse, hein.
Se rebeller. Eh ben,
ça risque de resserrer les gens, alors, au contraire.
Je crois que
personne ici, ni Étienne ni moi, n'avons dit que le régime iranien c'était super, vraiment c'est de la démocratie et tout. Nous, moi en tout cas, ma préoccupation c'est l'après. Et je me demande si, lorsqu'on va comme ça décider de descendre un régime, si on a pensé à l'après. Parce que jusqu'à présent, en tout cas dans cette région du monde, l'après a été mal pensé. Donc excusez-moi de m'inquiéter pour ça, mais je m'inquiète. Et la deuxième chose, je trouve que le débat, il est vachement manichéen. Quand on dit oui, alors là, on me dit Israël, en gros, c'est les gentils parce qu'ils sont entourés de gros méchants. Le monde est complexe. Le monde est complexe. La géopolitique l'est encore plus. Et je m'étonne qu'on considère qu'un pays, parce qu'il est effectivement attaqué, soit tout d'un coup l'ange Gabriel, si je peux dire ça comme ça.
Il a le droit de se défendre.
Oui, il a le droit de se défendre.
Mais là, il n'était pas attaqué.
Mais on peut aussi.
Il n'est pas attaqué par l'Iran.
On peut aussi supposer que Israël, qui était en difficulté, en termes d'image, je parle en termes d'image sur la situation à Gaza, on peut aussi supposer que ça permet aussi aux autres de détourner l'attention ailleurs.
Il ne fallait pas bombarder Mossoul. Quand Daesh nous a attaqué, il ne fallait pas que la France bombarde les positions de l'État islamique.
On a été
Mossoul,
attaqué,
etc. Il y a eu, pardon, il y a eu aussi d'ailleurs malheureusement des morts civiles, parce que dans toutes les guerres, il y a des innocents qui meurent.
Je ne dis pas qu'il ne doit pas bombarder l'Iran. Je dis que s'il y a des velléités de descendre un régime, de sortir un régime, alors là, je m'inquiète, je suis désolée.
Merci à David et merci à Ahmed d'avoir été avec nous. Il est 10h20. La France doit-elle soutenir Israël coûte que coûte ou laisser faire le sale boulot? Alors c'est un... Oui, bien évidemment, à 50, quasiment 57-43. 57%, 43%.
C'est partagé quand même.
Dans un instant, le on s'en fout pas. Suite des GG en direct sur RMC, RMC Story.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
RMC, Charles Magnin.
On se retrouve tout à l'heure à 5h en direct pour toute l'info, toute l'actu évidemment, mais aussi de l'humour, des débats, de l'humeur. Et vous, au 32-16, toute l'équipe de Charles Matin autour de moi, Géraldine Demory, Emmanuel Lechypre, Anthony Morel, et vous, à tout moment, rendez-vous à 5h sur RMC.
Si un jour vous ne captez pas RMC, pas d'inquiétude.
RMC est aussi en direct sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
Pas le temps d'écouter la radio aujourd'hui ? Sur RMC.
Sur RMC. Vous avez toute la nuit.
Rediff. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec vous, bien évidemment. Joël Dagosséry, Étienne Liebig, Antoine Dier, c'est 10h moins le quart, c'est le on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Inès Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. On apprend dans le Canard Enchaîné ce matin qu'avec l'appui d'Emmanuel Macron, Amélie Oudéa-Castéra. Vous savez, l'ancienne ministre des Sports. Amélie Oudéa-Castéra s'était baignée dans la Seine l'année dernière, avant l'ouverture des Jeux Olympiques. Ça faisait partie des premières baignades dans la Seine. Anne Hidalgo aussi baignée dans le fleuve. Elle n'avait pas crié, Anne Hidalgo, mais alors Amélie Oudéa-Castéra, la vidéo était
devenue virale. Elle avait glissé en même temps qu'elle
avait
brûlé.
On se le refait, là, juste pour le bonheur, le plaisir.
Ah, ça va revenir, on va le remettre.
Et qui fait ça?
Hommage.
À part des enfants, peut-être.
Bon, écoutez, Gégé, Amélie Oudéa Castéra, donc avec l'appui d'Emmanuel Macron, a demandé et même obtenu 9000 euros par mois pour son nouveau poste de présidente du CNOSF, vous savez, le Comité National Olympique et Sportif Français, là où ses prédécesseurs, eux, avaient tenu à exercer gratuitement à titre bénévole, donc. Est-ce qu'on s'en fout ou pas? On s'en fout pas. Joël, Étienne.
Non, on s'en fout pas.
Antoine.
On s'en fout pas.
Étienne.
Bah, écoute, on n'a pas, moi, j'ai pas tous les détails du truc. Après, il se peut que des gens qui avaient des salaires, parce que de toute façon, tu peux pas vivre sans salaire, hein. Donc, il se peut que des gens qui avaient déjà des salaires très, très confortables aient dit, bon, je fais ça en plus bénévolement. Peut-être qu'elle, elle a pas d'autres revenus que ça. Si elle a d'autres revenus, effectivement, c'est un peu dégueulasse de se faire payer pour un truc qui était habituellement bénévole. Si elle n'a pas d'autres revenus et qu'on lui demande de le faire, je comprends qu'elle cherche à se faire payer. Après, évidemment, pour des gens comme moi, où on démarre à 1260 euros et on finit à 2002, ça paraît complètement délirant de gagner 9000 balles par mois. Mais je me suis rendu compte que finalement, dans la réalité du monde, il y a des tas de gens qui gagnent 9000 balles par mois et que je ne savais pas.
Mais elle est où, la gauche, là, Étienne? Tu t'es endormi, t'es devenu macroniste.
Je dis juste que si elle a, soit elle n'a pas de revenus et elle a besoin de vivre, mais je trouve que 9000 balles, c'est délirant.
Ah, tu vis,
soit elle a des revenus et c'est complètement dégueulasse de se faire payer en double. Ouais, c'est tout. Peut-être que les gens.
On a besoin de ce comité. Est-ce qu'on peut pas supprimer ce comité?
Ah bah,
ce comité était odieux.
Ah
bon,
oui, ça serait peut-être encore mieux.
Ah oui, c'est que t'es odieux totalement.
Au-delà du comité, c'est. Oudéa Castéra fait un passage calamiteux au ministère des Sports. C'est pas bon. C'est pas bon. Tout le monde la déteste. Elle s'est ridiculisée. Les JO, c'est pas elle qui fait la réussite des JO. Castéra, au contraire, c'était un boulet qu'on a traîné. Elle a été nommée là parce que je crois que son mari doit avoir un peu de réseau en Macronie, etc. Voilà, c'est la Macronie dans toute sa splendeur. À la fin, on dit, bon, au ministère, t'es gênante quand même, va falloir sortir un petit peu. Mais t'inquiète pas, on n'oublie pas les copains. Hein, on va te trouver une jolie place. Et voilà, jolie place à 9000 euros. Mais c'est quoi ce monde dans lequel les incompétents sont repêchés? Je connais plein de politiques qui retournent chez à la fin. Bah oui.
Enfin, je veux dire, la méritocratie, c'est pour les autres, en fait. C'est pour ceux qui, comme dit Étienne, ceux qui commencent à 1800 et qui finissent à 2002. C'est pour eux, la méritocratie, c'est-à-dire travaille dur, sois performant, aie des bons résultats et t'auras 2% d'augmentation et encore, je suis gentille, à l'année ou tous les 5 ans. Parce que là, excuse-moi, qu'est-ce qui fait que cette dame mérite un tel poste avec un tel salaire?
9000 balles.
Qu'est-ce qu'elle a laissé comme trace dans la République?
Mais ce comité, à quoi
qu'est-ce qu'on peut palper concrètement
du passage carrière dans le sport quand même.
Qu'est-ce qu'on peut palper?
C'est une grande sportive, elle était
concrètement
elle
du passage
d'Oudéa
Castéra au gouvernement. Qu'est-ce qu'on peut palper concrètement? Bah, moi, je ne sais pas. Je ne vois pas. Et quand on me dit qu'il faut faire des efforts, tu vois, quand Bayrou ou Barnier ou je ne sais qui va s'asseoir au TF1 de 20h ou je ne sais pas, à BFM pour nous dire, vous comprenez, nous devons tous faire des efforts. Ben, tu vois les efforts qu'ils font, eux.
Ouais, où ils commencent.
Mais tu commences par eux, quoi.
J'ai l'impression que c'est un autre monde parce que, tu vois, par exemple, notre championne, la mademoiselle Loïse Boisson. Loïse Boisson, quand tu vois qu'elle a gagné, elle n'est pas arrivée au bout, mais qu'elle a gagné 490 000 euros
parce
que.
C'est pas l'argent public.
Non, mais c'est pas la question. Je dis juste que c'est un autre monde. C'est des gens qui gagnent 500 000 euros.
Oui, le monde du privé,
quand c'est de l'argent privé, que les gens soient très bien payés, c'est privé. Mais non, la moralité, toi tu fais la morale chrétienne. Là c'est de l'argent public.
Je trouve que
les gens on leur fait les poches. Les gens n'ont jamais autant payé d'impôts et on apprend qu'on paye ces gens-là 9000 euros par mois. C'est de l'argent public. C'est un scandale. Je comprends même pas. Étienne, toi, un homme de gauche, ça te saute pas aux yeux. Cet argent, il faut le redonner à ceux qu'on en a besoin.
Ce chiffre RMC ce matin, les GG, 225 portes ont été fracturées par erreur par les forces de l'ordre depuis le début de l'année.
Ah oui, ça je connais.
Est-ce qu'on s'en fout pas, Joël? Non, du coup.
Pourquoi tu connais?
Raconte-nous.
Non, mais parce que mon ancienne belle-mère a été vivait à Saint-Ouen dans une tour qui a été détruite depuis longtemps. Et effectivement, il y avait du trafic de drogue en bas. Et ils sont venus et ils ont tout cassé, tout pété. Et ça a pris des mois.
Ils se sont trompés de porte. Ta belle-mère n'était pas dealeuse.
Non, pas du tout.
Ils se sont trompés de porte.
Ils se sont trompés de porte. Ils ont tout cassé. Et ça a pris des mois et des mois
ne serait-ce que pour avoir un dédommagement. C'était la croix et la bannière pour que l'erreur soit réparée.
Eh bien justement, des portes cassées lors des perquisitions menées au mauvais endroit par la police ou la gendarmerie a coûté un pognon de dingue à l'État, 900 000 euros d'indemnisation à régler l'année dernière. Phénomène pas si rare que ça, au point que pour faciliter les démarches, Joël, le ministère de la Justice a carrément décidé de simplifier les procédures en ligne dédiées aux victimes collatérales. Tu ne t'en fous pas?
On s'en fout pas, non.
Ouais. Et Étienne?
Non, je ne m'en fous pas.
Qui, tu t'es fait péter la porte
non,
aussi?
Moi, non, mais je l'ai vu 20 fois, des gens qui se font défoncer la porte alors que c'est la porte en face, etc. Ouais. C'est pas rare du tout, hein. C'est dans le feu de l'action. Ça dure 10 secondes, c'est très violent. Et il y a une espèce de folie comme ça comme si on venait arrêter le plus grand terroriste du monde. Et bing, puis à la fin, ils repartent. Tout le monde dort dans la maison.
Bah oui, mais
tout le monde est sorti
surprise.
Du lit. Ah, excusez-nous, on s'est trompé. Voilà. Mais c'est courant, je veux dire. C'est un truc.
Antoine,
c'est courant. Non, ça arrive pas toujours quand même.
Bon, moi, ça m'est jamais arrivé, ni dans mon entourage. Donc, je trouve que vous avez des vies.
Dans ton bunker.
Ah ouais, la porte est trop solide. Non, moi, c'est soutien complet toujours à nos forces de l'ordre. Mais effectivement, les gars, vérifiez bien la porte, quoi. Ça la fout mal, quoi. Oui,
c'est pas normal.
C'est pas normal de galérer des mois pour avoir un dédommagement.
En fait, il faudrait un serrurier et un mec qui remplace les portes au sein de la police nationale.
Non, c'est au geôlier.
Ce que je veux te dire, c'est que Gérard, on s'est encore trompé. Ouais. Tu peux venir changer la porte au 28 rue Bel Air.
J'imagine le parcours administratif que ça doit faire ensuite, pour obtenir dédommagement et réparation. Merci Anaïs. Il est 10h05, suite des grandes gueules. Dans un instant, avec le scandale des airbags Takata, est-ce que Citroën a trop tardé à réagir? Est-ce que ça met votre vie en danger? Il y a encore eu un accident mortel. On en parlera avec vous au 32-16. Et puis cette donnée économique, jamais les Français n'ont autant épargné. Jamais ils n'ont mis autant d'argent de côté depuis 1979. Qu'est-ce que ça dit? Et est-ce que c'est votre réflexe de mettre tout de suite de l'argent de côté? Visiblement, les temps sont inquiétants. Allez, à tout de suite avec les GG.
RMC, 9h, midi, les grandes gueules.
C'est Vincent Moscato sur RMC. Je vous interromps, car si vous vouliez écouter le Super Moscato Show, c'est pas maintenant, hein. Alors attention, je vous dis pas d'arrêter d'écouter, comprenez-moi bien. L'émission actuelle est une très bonne émission et vous avez raison de l'écouter. Mais le Super Moscato Show, c'est du lundi au vendredi de 15h à 18h. Alors à tout à l'heure, 15h sur RMC.
Tout RMC en podcast
sur l'appli RMC. Trop pressé aujourd'hui?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff.
RMC, 9h, midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story. Vous avez pris date pour après-demain, vendredi. Les GG clôturent leur tournée anniversaire des 20 ans. Nous sommes allés à Angers, nous sommes allés à Clermont-Ferrand, nous sommes allés à Pau, nous sommes allés à Toulon, nous sommes allés à Lyon. Et vendredi, nous nous installons dans un lieu, comment on dit déjà, dans un lieu emblématique de la vie politique française.
Oui, nous serons en face de l'Assemblée nationale sur la place qui est à côté.
Place du Palais.
On va installer notre chapiteau et accueillir trois ténors de la politique française qui vont beaucoup compter dans les mois et les années à venir, c'est-à-dire Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, Marine Le Pen, la chef de file des députés RN, et le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Surtout, ce qui sera intéressant, c'est les confronter aux grandes gueules, comme nous savons faire, sur les sujets de la vie quotidienne, parce que cette tournée des 20 ans, ça a été l'occasion de prendre le pouls un peu de la France sur les préoccupations des Français, le pouvoir d'achat, l'inflation, mais aussi l'insécurité, l'immigration, l'avenir du monde aussi, le réchauffement climatique, bref, sur tous ces sujets concrets, on essaiera d'obtenir de bonnes réponses.
Gérald Darmanin, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, vendredi avec les GG, avec les grandes gueules, si vous voulez assister à l'émission parce que vous le pouvez, alors il y a un nombre de places disponible assez réduit, c'est via public@rmc.fr. Les airbags, le scandale des airbags Takata, c'est maintenant qu'on en parle avec les grandes gueules sur RMC, RMC Story. « Le scandale des airbags Takata, les airbags défaillants du fabricant japonais. Et là, dorénavant, le constructeur automobile Citroën a demandé l'immobilisation immédiate de toutes les C3 et DS3, on dit bien l'ensemble des véhicules disponibles en Europe et encore équipés de cet équipement qui, maintenant, on le sait, présente un danger mortel.
Oui, un équipement qui nous vient du Japon, et ça secoue d'ailleurs le secteur mondial de l'automobile. C'est pas nouveau, c'est depuis 2014. D'ailleurs, de nombreux constructeurs partout dans le monde ont été obligés d'immobiliser des centaines de milliers de véhicules à travers le monde, de remplacer ces équipements de sécurité. C'est le cas en France. Le ministère des Transports a ordonné l'immobilisation des Citroën C3 et DS3 pour changer l'airbag Takata. Après le nouveau décès, c'est une femme à Reims qui a été causée par l'explosion de son airbag. C'est malheureusement pas la première fois qu'une personne décède à cause de cet airbag défectueux. Au total, on dénombre déjà 30 accidents, dont 13 décès en France. Le problème, c'est qu'on s'interroge. Est-ce que Stellantis, propriétaire de ces marques Citroën, a réagi suffisamment tôt? Non, disent beaucoup de citoyens qui se sont mobilisés, notamment les familles des victimes, et puis tous ceux qui avaient cet airbag, certes japonais, mais qui se trouvaient dans des véhicules français. Et y a-t-il un retard à l'allumage? Doit-on se retourner contre Stellantis? C'est la question qu'on pose.
C'est Marie-Hélène Malroux qui est avec nous, qui est fondatrice et présidente du collectif Scandale Airbag Takata. Parce qu'on peut vraiment... Bonsoir Marie-Lise, Hélène. Bonjour, pardon. On peut vraiment parler de scandale mortel, quoi, en fait.
Ah oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, c'est plus qu'un scandale. D'ailleurs, c'est honteux ce qui est en train de se passer. Hier, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a dit que la situation était inacceptable et scandaleuse. C'est le moins que l'on puisse dire. Comme vous l'avez d'ailleurs justement dit, depuis 2014, la situation était connue et reconnue. Ça a été le plus gros scandale aux États-Unis en 2014. Il aura fallu effectivement 2024, donc 10 ans plus tard, pour effectivement entendre dire que dorénavant, il y avait, parce qu'on a été la première vague des constructeurs, des rappels constructeurs Stop Drive pour le sud de la France, si je puis dire, puisque Stellantis a tiré une ligne imaginaire entre Clermont-Ferrand et Lyon. Ensuite, nous avons toujours dit, dès le démarrage de la création du collectif, il y a un peu plus d'un an, qui regroupe aujourd'hui 7600 personnes quand même, donc c'est pas rien, 7600 consommateurs qui effectivement sont inquiets pour la sécurité effectivement de leur véhicule. Quand ils prennent le matin le véhicule pour aller bosser, ils savent pas s'ils vont rentrer le soir. Est-ce que c'est une situation qui est logique? Quand on entend le porte-parole de Stellantis hier dire qu'ils sont en train de réévaluer la situation afin de prendre les mesures nécessaires. C'est une blague, j'espère. Réévaluer la situation, ils avaient 10 ans pour l'évaluer, la situation.
En quoi vous êtes impliquée, vous, Marie-Hélène, pourquoi vous êtes engagée dans ce combat?
Parce que j'avais acheté un véhicule, une DS3, immatriculée effectivement pendant la période de 2009 à 2019, donc qui est celle qui est concernée, là, aujourd'hui, par cette triste et douloureuse affaire. Je l'avais acheté pour mon fils, et qui était parti vivre en région PACA. Donc vous imaginez bien que quand j'ai reçu le courrier Stop Drive en disant qu'il fallait cesser immédiatement de conduire pour risque de blessures graves, voire mortelles, vous comprenez bien que, force de constater, je me suis intentiné, un peu inquiété. Donc immédiatement, le lendemain de la réception du courrier en recommandé, j'ai créé effectivement ce collectif sur Facebook. Nous organisons d'ailleurs le 24 juin en collaboration avec le cabinet de Maître Legevac, puisque je suis aussi également à l'initiative de l'action collective conjointe qui est portée par Maître Legevac. Donc on organise le 24 juin une réunion publique à Paris sur le thème de la sécurité routière, parce que en l'occurrence là on parle des affaires des airbags défectueux Takata, mais il y a aussi et également dans le cadre du thème de la sécurité routière, le Motorgate, le PureTech, la chaîne 1.5 Blue HDI. Donc en définitive, ces constructeurs qui sont peu scrupuleux mettent nos vies en danger chaque jour.
Et avec des équipements de sécurité, c'est ça qui est le paradoxe
avec
absolu.
Des éléments de sécurité.
C'est censé nous protéger, ça nous tue. Mais pardon, qu'est-ce que vous demandez concrètement à Stellantis?
Stellantis, c'est de prendre la responsabilité de leurs actes. Quand effectivement vous avez mis un mouchoir sur effectivement un équipement de sécurité depuis plus de 10 ans pour des affaires financières, tout simplement. Et je considère aussi également que l'État est responsable. Pourquoi l'État est responsable? Parce qu'en 2014, sous le gouvernement de Valls, ils avaient connaissance de la situation. Les différents ministères aujourd'hui qui homologuent les véhicules, que ce soit le ministère de l'Intérieur, de la Transition écologique ou le ministère des Transports, qu'ont-ils fait en 2014 pour effectivement veiller à la sécurité des consommateurs? Rien. Et là, aujourd'hui, ils sont en train d'expliquer qu'il va falloir refaire un stop drive pour 82 000 véhicules supplémentaires, tout simplement parce que le rappel stop drive du Sud ne concernait pas les mêmes périodes que nous dans le Nord. Il faut savoir que les 250 000 propriétaires concernés, les premiers, c'était de 2009 à 2019. Et quand ils ont rappelé, effectivement, dans le Sud, ça a été effectivement différent. C'était de 2008 à 2013. Donc, quid, effectivement, des véhicules qui était de 2013 à 2019. D'ailleurs, la personne qui est décédée, malheureusement, est bien triste. Cette dame de 40 ans qui est décédée la semaine dernière, au volant de son véhicule avec sa petite fille, ils auront expliqué, effectivement, parce que son véhicule ne faisait pas l'objet, en l'occurrence, d'un rappel constructeur stop drive, parce qu'elle datait de, c'était une C3 de 2014. D'accord. Donc, dans le sud de la France, ils n'avaient pas procédé à un rappel stop drive sur les véhicules jusqu'en 2019. Ce qui n'avait pas été notre cas sur la première vague. Donc, les rappels constructeurs. Donc ça veut dire qu'ils sont responsables. Ils sont totalement responsables. Et Thierry Coscas qui avait dit effectivement devant les journalistes, en l'occurrence, ah mais il n'y a pas de risque avéré au-dessus de la ligne, il ira expliquer effectivement l'ex-patron de Citroën, il ira expliquer à la famille des victimes aujourd'hui dans quelles conditions effectivement les risques n'étaient pas avérés. D'accord. Moi je trouve ce scandale, alors quand on dit effectivement que c'est un scandale, c'est le plus gros scandale automobile aujourd'hui français. Alors, donc à quand une enquête parlementaire aujourd'hui?
Ce que je voudrais comprendre madame, et vous allez peut-être pouvoir nous y aider, c'est pourquoi les États-Unis ont eu le rappel bien plus tôt que chez nous, alors qu'on est censé dans notre pays être mieux protégé en termes de droits des consommateurs, etc. Et je pense que c'est lié essentiellement à la façon dont les États-Unis ont d'indemniser très largement les consommateurs devant les cours de
les tribunaux, que là-bas, les actions collectives.
Les actions collectives.
Voilà. Et donc chez nous, ça n'existe pas encore. Est-ce que vous pensez que on aurait pu obtenir plus rapidement des constructeurs le changement des airbags si on avait de telles actions collectives?
Alors, les actions collectives conjointes, c'est pas nouveau. En l'occurrence, Maître Legevac a porté plusieurs actions collectives conjointes en France aujourd'hui. Ouais. Voilà, donc on en est au balbutiement, certes.
Il n'y a pas d'indemnisation très forte dans notre pays.
Mais je pense que c'est pas une question d'action collective conjointe ou de classe action qui a fait effectivement la différence entre les États-Unis et la France. Premièrement, parce que nous sommes toujours en retard de 10 ans hein, par rapport aux États-Unis, on ne sait pas pourquoi, hein, on n'a pas l'impression effectivement que nous sommes un pays très innovant pour pouvoir être à la pointe de la technologie ou en tout cas à la pointe des événements. Donc les États-Unis ont toujours 10 ans d'avance sur nous. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et il y a 10 ans en arrière, ils avaient des services aujourd'hui tels que nous avons depuis maintenant 5 ans, puisque là, la SSMVM, donc le service de surveillance des marchés des véhicules à moteur, vient de fêter ses 5 ans. Il a été créé le 10 juin 2020. Donc ça veut dire qu'ils avaient un service tout autre, voilà. De la même manière que la SSMVM, ils avaient un service aux États-Unis qui était quand même mis en place bien avant nous le nôtre, et ils ont été beaucoup plus effectivement
Donc il y a des choses à faire en urgence quoi en France, ouais.
Voilà, donc et d'ailleurs c'est peut-être parce que c'est pour ça.
Marie-Hélène, merci de ces explications parce que on a François qui est en Vendée. Bonjour François.
Oui, bonjour.
Parce que François, vous avez été exposé à ce risque vous aussi, vous avez emmené votre véhicule.
Oui, voilà, tout à fait. Oui. Dans un premier temps, j'avais fait une intervention au niveau de Citroën, le concessionnaire, pour leur demander si mon véhicule était concerné. Donc, il y a environ un an et demi de ça, il m'a dit non, votre voiture n'est pas concernée, il n'y a pas de problème. Et à la suite de ça, j'ai reçu un courrier recommandé par l'usine Citroën me disant absolument de donner mon véhicule à la concession et d'arrêter de rouler avec. Donc, j'ai pris contact avec le concessionnaire qui me dit, bah, écoutez, oui, effectivement, votre véhicule est bien concerné, on vous rappelle pour vous donner un rendez-vous. Donc il me rappelle pas, deux jours après, moi je retéléphone pour savoir où en étaient les choses. Ils me disent, bah, écoutez, on peut prendre votre véhicule dans environ 15 jours, 3 semaines. Je leur dis, attendez, mon épouse roule tous les jours avec la voiture, l'airbag il peut exploser à n'importe quel moment, on va pas rester comme ça. Donc à la suite de ça, j'ai dit, bah, écoutez, moi c'est pas compliqué, demain matin je viens à la concession, et soit vous me débranchez les airbags pour qu'ils ne risquent plus d'exploser, je suis ancien mécanicien très bon gâte, et je leur dis, vous neutralisez les airbags et après je viendrai quand les pièces seront arrivées. Ils n'ont rien voulu entendre, ils m'ont dit non, on peut pas, ou on les change ou vous restez comme ça. J'ai dit écoutez, c'est pas compliqué. Demain matin, je viens à la concession avec un huissier, soit je repars avec un véhicule de prêt, soit vous me changez mes airbags.
Et c'est ce que vous avez fait?
Bah non. parce qu'une heure après, il me rappelle me disant « Ah, ça y est, finalement, les airbags, on les a en stock. »
Donc, en fait, vous avez établi, le rapport de force et ça a marché pour François.
Mais tu vois, je pense qu'il y a là-dedans, bah, en dehors du scandale, il y a un manque de conscience du danger. C'est-à-dire, je disais tout à l'heure, pour rigoler, qu'il y a plus de morts par airbag que par les produits, par les drogues illicites en France. Illicite, hein, pas licite. Et donc, on voit bien que on investit beaucoup sur les drogues illicites pour lutter contre les dangers pour la santé.
Enfin, il y a moins d'utilisateurs de cocaïne que de PS3.
Je sais pas. Il y a 1 500 000 utilisateurs de cocaïne régulière.
Il y a beaucoup plus de mecs qui utilisent des voitures.
Hein. C'est pas sûr.
Il est très bizarre. Et donc,
on ne prend pas conscience du danger parce qu'on voit bien qu'il y a là une façon absurde de penser le danger pour les citoyens. Et c'est vraiment, c'est typique de notre société. Là, il y a un vrai danger. Il y a un vrai danger de mourir. Et là,
je vois pas pourquoi.
Non, mais je le fais volontairement. Parce qu'en fait, on est capable d'investir énormément au nom de la santé. Et là, zéro. Parce qu'on pense que c'est pas un vrai danger. Voilà. Alors qu'il y a des morts. 13 morts.